Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a, on a l'opportunité de plonger dans une pile de documents vraiment fascinants.
Oui, des documents qui émanent de l'association Vivre sans voir. Et c'est une structure qui est dédiée au soutien des personnes déficientes visuelles.
Exactement. Nos sources du jour, c'est... Ça rassemble en fait des extraits de leur site web, donc ça détaille leur mission, leur méthode d'action. Et on a aussi des articles de presse régionaux de, je crois, de fin 2023.
Ouais, c'est ça, fin 2023.
Et du coup, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est... Enfin, c'est absolument pas de juste faire une liste mécanique des actions d'une petite association locale.
Non, non, l'idée, c'est de décortiquer tout ça.
Voilà. On veut vraiment disséquer la mécanique de l'empathie, en fait. Comprendre comment ils essayent de rendre visible un quotidien que la majorité des gens ignorent complètement.
Et c'est là que c'est super intéressant, parce que quand on commence à analyser ces documents, on voit tout de suite une double approche. Une approche très, très pragmatique.
C'est-à-dire ?
D'un côté, on a une réponse purement matérielle, le financement d'outils, les aménagements. Et de l'autre côté, et c'est peut-être le plus important, on a une démarche immatérielle.
La sensibilisation.
Exactement. La psychologie collective, l'éducation du public. En fait, l'association, elle traite la perte de la vue non pas comme une fatalité individuelle qu'il faudrait cacher, mais vraiment comme une faille dans notre organisation sociale globale.
Une faille qu'il faut colmater tous ensemble, quoi.
C'est tout à fait ça. C'est ce pont permanent entre équiper l'individu pour affronter le monde et éduquer le monde pour accueillir l'individu.
C'est joliment dit. Et le point de départ de cette philosophie, on le voit bien dans les textes, ça repose sur trois piliers d'action très clairs. Le premier, c'est de faire connaître les outils de compensation.
Ouais, le terme compensation est crucial ici.
Grave. Le deuxième pilier, c'est participer au financement de ces outils pour le travail, le sport, l'apprentissage. Et le troisième, comme tu disais, c'est la sensibilisation massive.
Si on s'arrête deux secondes sur ce mot, compensation, pour un public averti, on sait que ça dépasse de très loin la simple idée de réconfort moral.
Ah oui, c'est pas juste une tape dans le dos, hein.
Non. Le concept de compensation, ça désigne tout ce qui vient combler le fossé entre un environnement qui est inadapté et les capacités de la personne.
Des trucs très concrets.
Des outils vitaux. On parle de technologies qui changent l'autonomie du tout au tout. Les sources citent des logiciels de lecture d'écran, comme JAWS.
Ce truc qui vocalise absolument tout le texte sur un ordi.
Voilà. Ça englobe aussi les applis sur smartphone qui font de la reconnaissance optique, tu sais, pour lire le menu d'un resto. Les montres tactiles, les plages braille.
Et même des trucs, pas du tout high-tech, mais hyper malins.
Les indicateurs de niveau sonore.
Oui.
Ce petit objet qui vibre ou qui sonne quand on se verse un café bouillant pour pas se brûler, c'est brillant. Mais le problème majeur, et les documents insistent lourdement là-dessus, c'est le prix.
Le coût financier est juste faramineux.
Et ça nous amène directement à une autre barrière. Une barrière dont on parle, dont on parle presque jamais, la lourdeur administrative.
Ah, la fameuse paperasse. Le paradoxe est fou. Pour avoir les aides financières pour acheter ces outils de compensation, il faut remplir des dossiers interminables, fournir des pièces d'identité, des justificatifs médicaux.
Et le comble, c'est que les portails gouvernementaux sont très souvent inaccessibles.
Mal codés. Les lecteurs d'écran plantent dessus. Pour une personne malvoyante, c'est une épreuve de force monumentale.
C'est une boucle totalement absurde, en fait. Le système exige des preuves visuelles, il faut lire des PDF qui ne sont pas configurés pour être lus par des machines ou des courriers papier, juste pour avoir le droit de compenser son handicap visuel.
C'est fou. L'infrastructure publique part du principe que tu as une vision parfaite pour faire tes démarches.
Du coup, l'association doit littéralement pallier cette faille de l'État. Sur leur site, on voit qu'ils proposent de télécharger directement les affiches, les formulaires, les conditions d'attribution.
Ils mâchent le travail.
Ils sont obligés. Le canal officiel est bloqué par sa propre inaccessibilité.
Et c'est là qu'intervient une expression qui m'a vraiment marqué dans le dossier. Pour recruter leurs bénévoles, l'association utilise une phrase choc. Ils disent « Vous êtes nos yeux ».
C'est très fort.
En surface, on se dit « Oh, c'est poétique ». Mais quand on y réfléchit, c'est d'un réalisme brutal. On ne demande pas juste au bénévole de donner son dimanche après-midi. On lui demande de prêter physiquement une capacité sensorielle que la société exige.
Le bénévole devient une sorte de prothèse sociale.
Exactement. Externaliser sa propre vision à quelqu'un d'autre juste pour trier son courrier ou lire une facture. Ça en dit tellement long sur la façon dont on a conçu notre monde.
Sans cette intervention humaine, l'information circule plus, les droits s'ouvrent pas. D'ailleurs, les textes soulignent, la diffusion même de l'information sur le handicap dépend de ces bénévoles voyants.
C'est une délégation de la perception.
Et ça pose des questions énormes sur l'intimité. Demander à quelqu'un d'être ses yeux, c'est le laisser entrer dans sa banque, dans ses données médicales.
C'est hyper intrusif, en fait.
Oui. Et l'association sait très bien qu'on ne peut pas bâtir une société inclusive juste sur le dévouement de quelques bénévoles locaux.
Il faut attaquer la racine du problème.
Et la racine, c'est l'éducation du public.
Ce qui nous amène à la deuxième grande partie des documents, la sensibilisation. Ils déploient des dossiers pédagogiques partout. Écoles primaires, collèges, lycées, centres de loisirs, et même pour les adultes.
Le maillage est impressionnant.
Il y a cet article de La Provence qui relate une action à l'école Nelson Mandela, à Aubagne. La méthode de vivre sans voir, c'est pas de faire un cours magistral chiant au tableau. Ils y vont par l'expérience physique. Les gamins font des tâches du quotidien les yeux bandés.
L'approche immersive.
Mais là, je te pose la question, en tant qu'experte. Est-ce qu'on risque pas de réduire la cécité à une espèce de jeu de rôle un peu marrant pour les enfants? Mettre un bandeau 2 heures, est-ce que ça change vraiment les mentalités?
Le risque du côté ludique est réel, on va pas se mentir. Mais la pédagogie de l'association a un but cognitif hyper précis. Dans les sources, il parle de faire comprendre la nécessité d'une organisation précise et très adaptée.
Ah, le fameux terme.
Oui. Quand un élève de cette école Nelson Mandela se retrouve dans le noir et qu'il essaye juste de trouver sa trousse dans son sac, son cerveau subit une saturation immédiate.
Le choc cognitif.
C'est ça. La mémoire musculaire de l'hésitation s'imprime, la peur de percuter le bureau. L'enfant réalise dans sa chair que si une chaise n'est pas rangée, si un cartable traîne, c'est plus juste du désordre.
Ça devient un danger imminent.
Exactement. Ce que ces ateliers enseignent, c'est pas de la pitié. C'est la rigueur absolue qu'impose la perte des repères visuels.
C'est fascinant. Et cette prise de conscience par l'expérience, ça nous connecte directement à l'information la plus, enfin personnellement, la plus bouleversante de ce dossier.
Le volet vivre ensemble.
Oui, on y découvre une population totalement invisibilisée. Les enfants aidants, les gamins de parents non-voyants ou malvoyants.
C'est un sujet tellement lourd.
Des enfants qui prennent le rôle d'aidants à un âge où, franchement, ils devraient juste jouer aux billes ou à la console.
La littérature scientifique commence à peine à s'y intéresser et ces documents associatifs mettent le doigt dessus avec une acuité folle. Normalement, la protection va de l'adulte vers l'enfant.
C'est la base de la parentalité.
Mais avec le handicap visuel sévère, il y a une inversion totale des responsabilités. L'enfant devient le navigateur de son propre parent dans un espace public inadapté.
Les exemples dans le texte glacent le sang par leur banalité. Imagine un gamin de 8 ans qui doit guider son père sur un trottoir avec des poubelles partout. Ou qui doit lui faire traverser un carrefour parce que le feu sonore est en panne.
C'est d'une violence silencieuse.
Et pire, la gestion de l'information. C'est ces gosses qui lisent les courriers administratifs, les factures EDF, parce que ça arrive en papier. Ils gèrent des responsabilités d'adultes totalement déconnectés de leur développement émotionnel.
La charge mentale est astronomique pour eux. Ils développent une hypervigilance pathologique. Ils scannent la rue en permanence à la place de leurs parents.
Et le détail de la chronologie des documents est fou. C'est ça qui a tout déclenché.
Oui. C'est le catalyseur de toute l'action éducative de l'association.
C'est pas l'association qui a toqué aux portes des écoles au pif. Ce sont les profs qui ont appelé à l'aide.
Les enseignants étaient en première ligne. Ils voyaient ces élèves épuisés nerveusement, surinvestis, en décalage total avec les autres gamins dans la cour de récré.
Du coup, l'association a commencé ses ateliers directement dans les classes de ces jeunes aidants.
Le but premier, c'était de désamorcer l'incompréhension des camarades. Expliquer pourquoi ce petit garçon ou cette petite fille réagissait différemment. Recréer de la solidarité.
Et ça a tellement bien marché que le mouvement a explosé. C'est passé au collège, puis aux entreprises. Aujourd'hui, ils interviennent pendant la semaine de l'emploi. Des personnes handicapées.
L'étincelle, c'était vraiment de sauver un gamin écrasé par des responsabilités absurdes.
Donc, d'un problème hyper spécifique repéré dans une cour d'école, ils ont bâti une vraie stratégie de société. Et ça s'appuie sur un ancrage local de dingue. Les textes parlent d'Aubagne, Peigné, La Ciotat.
Ils prévoient même une grande rencontre interassociative à Peigné en 2025.
Ils refusent de rester dans la bulle médicale ou de l'aide à domicile. Ils veulent occuper la place publique.
L'ancrage local, c'est la seule façon de normaliser le handicap. Les sources mettent en avant 2 événements fin 2023 qui illustrent ça parfaitement.
Ah, le fameux loto familial. Le 5 novembre 2023, salle du Bras d'Or à Aubagne. Au-delà du côté sympa, le défi logistique est dingue.
Totalement. Un loto, c'est l'essence même du jeu visuel.
Il faut scruter les petits cartons avec tous les numéros, écouter l'annonceur, mettre le jeton sur la bonne case hyper vite.
Pour qu'une personne malvoyante ou non-voyante joue à égalité, il faut tout repenser. Des cartons imprimés en très gros ou en relief avec du braille, des jetons tactiles, une sono parfaite.
Et encore une fois, les bénévoles.
Toujours. Ils prêtent leurs yeux pour valider la grille gagnante. Mais le vrai enjeu du loto, c'est pas de gagner la cafetière.
C'est le droit à la banalité.
Exactement. Venir râler parce qu'on n'a pas le bon numéro au milieu de ses voisins, c'est ça l'inclusion culturelle. C'est une affirmation d'existence.
Et cette affirmation, elle est encore plus forte avec le deuxième événement sportif, l'effort à l'unisson. Le 29 septembre 2023, relayé par la Provence début octobre. Là, on passe de la salle des fêtes à la course à pied en plein air.
La course à la Vogue, c'est la métaphore ultime de la confiance humaine.
Le coureur est relié au guide juste par une petite cordelette.
Le guide doit anticiper chaque caillou, chaque trottoir, chaque virage, et le signaler verbalement ou par une tension sur la corde. C'est fascinant.
Et en faisant ça dans l'espace public, la Somme montre que le besoin d'aide technique n'empêche pas du tout la performance. L'espace public appartient à tout le monde.
Le handicap n'a pas à être caché dans le salon.
C'est clair. Si on résume un peu cette plongée dans ces documents, la feuille de route de Vivre sans voir est brillante. L'autonomie, ça commence par le matériel, les outils de compensation. Ensuite, il faut péter le mur administratif avec l'aide vitale des bénévoles.
Et le combat final se joue sur la psychologie.
La découverte des enfants aidants, les ateliers sensoriels. Tout ça pour forger une empathie durable en expérimentant physiquement les limites de la vision.
Et tout ça converge vers ce concept d'organisation précise et très adaptée.
Ce besoin de rigueur structurelle chez les personnes déficientes visuelles, ça nous renvoie en fait à nos propres privilèges sensoriels.
C'est la claque de la fin, ça. Notre environnement urbain et domestique présuppose une norme physique universelle. L'exercice mental le plus fou qu'on puisse faire après avoir lu tout ça, c'est d'imaginer son propre réveil.
Le matin.
Oui. S'imaginer cartographier son parcours du lit à la porte d'entrée ou jusqu'à l'arrêt de bus, en gardant les yeux fermés.
L'angoisse monte direct, hein. Rien que d'y penser.
Combien d'objets du quotidien deviendraient des dangers mortels ? Une porte entrouverte, une poubelle sur le trottoir, une trottinette en travers du chemin ?
Oh, les trottinettes électriques !
Cette projection, elle montre à quel point notre environnement est conçu avec l'illusion d'une évidence visuelle totale. La vraie intégration, c'est quand on arrête de voir notre monde comme naturel et qu'on réalise que c'est une architecture conçue pour exclure ceux qui ne peuvent pas s'y repérer d'un coup d'œil.
Il faut observer le monde, non pas pour ce qu'il offre à voir, mais pour l'organisation implacable qu'il exige. C'est une réflexion, franchement, c'est fondamental.
Oui, ça change la perspective.
Un immense merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi aujourd'hui. C'est une belle invitation à remettre en question les évidences de notre quotidien. Bonne réflexion à toutes et à tous.